Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un deuxième épisode de cette série des clés pour vivre, une série consacrée à ce livre qui est paru récemment aux éditions Baudelaire. Son auteur est psychologue clinicien, Daniel Desbois, que je salue. Et bonjour Daniel.
Bonjour Nathalie. Merci
de votre fidélité. Ce livre s'intitule « Ô Jésus, de grâce, change-moi. Seigneur, libère-moi de moi ». On l'a bien compris. Ce livre se présente en deux parties, avec une première partie qui est l'approche psychologique du changement qui mène à soi et une deuxième partie de l'ouvrage sur une approche spirituelle de ce changement intérieur et de cette conversion surtout. Voilà. Alors vous abordez tous ces thèmes-là et le thème aussi de la croyance, et cette croyance peut être toxique, peut freiner aussi le cheminement intérieur, psychologique et spirituel de l'homme. Quand cette croyance, eh bien, on s'y accroche, on s'y maintient, peut-être par crainte, par peur. Expliquez-nous un peu ces mauvaises et fausses croyances bien toxiques pour le cœur de tout homme, en vue du changement et en vue de cette finalité de la conversion, Daniel.
Alors, hier, je parlais de la blessure de l'enfant, et je disais que l'enfant, en quête éperdue d'amour, va tout faire pour le récupérer s'il n'a pas la dose qui lui permet de croire en la vie et de croire en lui-même. Quand ça ne vient pas, et la plupart, on est tous plus ou moins blessés, du fait que l'enfant est obligé de s'adapter, il va se positionner. Dès qu'il a l'âge de raison, c'est-à-dire à 4 ans, 5 ans, il va poser une décision ou une croyance qui va lui permettre après de s'adapter, non seulement de s'adapter, mais de vivre. Mais seulement, quand la blessure est profonde, je vous donne un exemple tout simple qui se répète souvent. Quand un papa n'est pas valorisant pour son enfant, si cet enfant n'est pas valorisé, puis qui fait tout et qui se démène pour y arriver à l'école, avoir un petit peu de résultats, mais le papa est excessif dans ses attentes. Il est trop excessif. Il attend plus de l'enfant et l'enfant il ne peut pas donner ce plus que le père attend. C'est-à-dire que l'enfant est loupé. L'enfant est à côté de la tente du père et ça le désole parce qu'il sent que le papa ne l'aime pas, il le vit comme ça, il a l'impression que le papa ne l'aime pas, même s'il l'aime, son père. Il a l'impression qu'il n'est pas... Mais il peut poser une décision, par exemple, ou une croyance, il peut poser la décision que jamais j'arriverai à prouver à papa que je suis quelqu'un de bien. Ce qui va devenir, à mesure que les années passent, jamais je n'arriverai à prouver à quelqu'un que je suis quelqu'un de bien. Et inconsciemment, il va faire ce qu'il faut pour ne pas être quelqu'un de bien, pour prouver qu'effectivement, ben voilà, c'est un nul. Et c'est dramatique, parce qu'en fait, c'est faux. Je vois des personnes qui vivent sur ce mode de la nullité, quoi, du rejet et de la nullité. Et en fin de compte, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très intelligentes, et pourtant elles se vivent comme étant nulles. Et elles brident inconsciemment, elles brident leur intelligence pour garder cette certitude, cette vérité, qu'elles sont nulles. Donc il faut les déloger de là, pour qu'elles trouvent en fin de compte un potentiel de vie, d'intelligence, d'aller vers et de croire en l'amour et en elles-mêmes, qui ne peut qu'être en fin de compte le seul chemin d'espérance. Arriver à toucher la vérité qui l'habite. La vérité, c'est qu'on est quelqu'un de bien. Tous. On est tous quelqu'un de bien. Ce petit garçon, cette petite fille est quelqu'un de bien. Mais quand elle est déformée par la blessure, elle peut penser qu'elle n'est pas tout à fait ou qu'elle n'est pas du tout. Alors déjà, cet enfant qui est devenu un adulte, qui a 30 ans, 40 ans ou 50, il ne sait pas qu'il fonctionne comme ça. Il ne le sait pas. Il est dans l'ignorance de ceux qui le construisent ou ceux qui l'ont construit. Le problème est là. Donc évidemment, si tout d'un coup il se rend compte qu'il n'est pas, parce qu'on ne lui a pas permis d'être reconnu dans ce qu'il est, il a tout fait pour être reconnu dans ce qu'il fait. Peut-être même dans ses avoirs. Quelqu'un qui va avoir beaucoup, qui peut être même riche, hein, concrètement, qui peut être très riche, il peut être vide à l'intérieur de son être. Et il vit par son avoir. Donc vous voyez, tant qu'il n'a pas conscience qu'il s'est construit justement faussement sur une fausse personnalité, eh bien il ne peut pas changer. C'est au moment où, de toute façon, c'est toujours la souffrance qui amène à se poser des questions et qu'il découvre qu'effectivement, il y a tout un, sur la base de sa blessure, de non-reconnaissance, par exemple, dans cet exemple, il se rend compte qu'il s'est construit faussement en essayant de donner des preuves qu'il était quelqu'un de bien, mais on n'a pas à prouver qu'on est quelqu'un de bien. On est quelqu'un de bien aux yeux de Dieu. Eh oui, mais pas aux yeux de papa, ou peut-être pas aux yeux de maman. Et c'est ça qui fait l'amorce du changement, c'est déjà d'avoir conscience que j'ai répandu à quelqu'un, mais en fin de compte, je ne dois rien, sinon l'amour. Mais ce qui est du négatif, ça ne lui appartient pas.
Alors qu'est-ce qui peut faire prendre conscience hein une trop grande souffrance, une épreuve
oui, c'est qui la tombe dessus. Voilà, c'est la souffrance qui va amener à... Qu'est-ce qui se passe? À se poser les bonnes questions. Et des fois, on arrive dans des extrêmes. Il y a des personnes qui peuvent rapidement se poser des questions quand la souffrance est là. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus durs et qui sont dans le dur, même dans le cas, c'est vraiment un cœur dur, hein, même fermé, et qui à un moment, ils n'en peuvent plus. Vous savez, le burn-out, il sert à ça aussi. Hein. Le burn-out, c'est...
Alors, qu'est-ce qu'il dit, justement, ce burn-out aujourd'hui?
Ce qu'il dit, c'est que, bon, il y a la pression de l'autre. Il faut voir que la personne, elle ne veut pas aller jusqu'au bout du bout qui va l'amener dans une difficulté. Mais ça fait partie de la mentalité. Il faut presser le jus. Il faut presser pour avoir davantage. Mais la personne, quand elle est pressée comme ça pour donner satisfaction et avoir un retour positif, à un moment, elle est usée. Mais c'est pas naturel. Elle n'a pas envie de ça. Elle est obligée. Donc évidemment, à un moment, elle va sombrer. Quand elle dépend de quelqu'un, mais il y a des personnes qui sont responsables d'elles-mêmes, elles dépendent que d'elles-mêmes et qui peuvent aller dans ces excès. Là, c'est toujours pareil, exister au travers de l'avoir. Mais quand tu as une belle image aux yeux des autres et que tu as l'impression d'avoir une belle image aux yeux de toi parce que tu as une belle image aux yeux des autres, ça ne prouve rien. Quelle est l'image que tu as aux yeux de Dieu?
En fait, c'est ça la bonne question.
Oui.
Qui conduit aussi à cette, finalement, liberté intérieure. On quitte cet esclavage de ce besoin aussi du regard des autres.
Absolument, et c'est là où on est pris dans...
On devient libre.
C'est-à-dire,
est-ce qu'il y a une question aussi de liberté?
C'est-à-dire qu'en fait, ça prend du temps. Parce que
on est esclave... revient dans ces 40 ans aussi, dans le désert.
Parce qu'on est esclave de notre amour propre. On a besoin d'être quelqu'un de bien, d'être valorisé, d'être chéri, qu'on nous caresse
d'être
dans le sens
reconnu,
du poil,
d'être aimé, briller. Et puis quand on brille, on est heureux parfois.
Mais bien sûr. Ouais. Et alors le problème, c'est que spirituellement, le pas de vie, c'est à l'envers. C'est ce que dit Jean-Baptiste. Hein. Il faut que je diminue pour que lui augmente. Nous, on est dans une culture où il faut grandir, prouver, donner à voir. Mais là, évidemment, on va contre le mur, c'est évident. Et là, il y a l'endurcissement qui empêche le changement et qui empêche la conversion spirituelle.
Alors, cet endurcissement du cœur, qu'est-ce qu'il dit de nous-mêmes, Daniel Dubois? On est dans la blessure ou on est dans le péché?
Les deux sont liés. Quand on est dans la blessure, on est dans le péché.
C'est ce que je voulais vous faire
pourquoi
dire.
Pourquoi? je le dis. Quand on est dans la blessure, on est dans le péché. Pourquoi? Parce que quand je suis blessé, j'ai besoin de me protéger. Je vais me protéger physiquement, psychiquement, psychologiquement, affectivement. Quand je suis blessé, je veux me protéger. Mais en me protégeant, je me coupe de l'autre. C'est-à-dire que je me coupe de l'amour. Et si je me coupe de l'amour, je me coupe de Dieu. Et là, je suis pécheur. Vous voyez cette gymnastique qui est malsaine au bout du bout, quoi.
C'est redoutable.
Et oui. Ben, on est tous, c'est pour ça qu'on est pécheurs dès le sein maternel. Ça veut dire que le péché, on va le construire avec les années. Potentiellement, on est pécheurs. Vous vous rendez compte, vous dites, ok, c'est bon, mais j'y suis pour rien. Évidemment, l'enfant, il est dans son innocence. Il est pécheur de rien du tout. Mais il le porte en lui. Il le porte en lui parce que depuis la chute, évidemment. Mais après, il va le devenir parce qu'il va être titillé par la blessure. Plus ou moins, Mais on devient... C'est pas parce qu'on a une vie de chaleureuse dans une famille où il y a l'amour qui circule qu'on n'est pas pécheur. Hein. Faut bien se dire que... Là, parce qu'on va dire, effectivement, quand il y a une vie qui a été difficile pour l'enfant dans un milieu, dans une famille compliquée, voilà, où on se bat, on se débat, on peut comprendre qu'on peut devenir pécheur. Pas tout le monde, hein, bien sûr, mais enfin, une grande majorité. Mais dans un milieu tout à fait favorable... Je suis tellement habitué à être repu par tout ce qu'on me donne que je vais être incapable de gérer la frustration. Et là, je le vois, je le constate chez des jeunes qui ne supportent pas la frustration quand on leur fait des remarques. Eux, ils deviennent fous. Ils deviennent fous parce qu'ils ont, tout d'un coup, ils n'ont plus les avoirs qui leur permettent d'être quelqu'un à leurs yeux ou aux yeux des copains dans la bande. Mais c'est... Ils deviennent pécheurs, même s'ils ont été gavés ou surgavés d'amour. Encore, il n'y a pas très longtemps, je reçois une famille, c'était très très jeune, c'était hier d'ailleurs, une personne qui est encombrée par des... C'est une famille adorable. Ils ont plusieurs enfants, ils donnent l'amour, ce papa et cette maman, c'est fabuleux. Je dis, avoir des parents comme ça, mais c'est merveilleux, tout le monde voudrait en avoir. Ben, je ne te dis pas, le bins qu'il y a entre les adolescents, et qui font que les parents ils sont complètement déroutés. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne les a pas fait comme ça, et en même temps, ils sont devenus comme ça. On leur a tout donné. Qu'est-ce qui fait que... Vous voyez, ce n'est pas la preuve, parce que je suis dans une famille qui est idéale, que je ne suis pas blessé pour autant, que je ne suis pas pécheur plus tard, pour autant.
Voilà, on médite. Hein, un travail intérieur, un travail aussi spirituel. Ô Jésus, de grâce, change-moi. Seigneur, libère-moi de moi. Serons-nous libérés après la lecture de cet ouvrage et de cette série? Je ne sais pas. Mais je vous invite dès demain, Daniel Desbois, à vous retrouver pour un troisième épisode de cette série. Merci. À demain.
À demain.